Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct, l'émission c'est beau, ne changez pas de fréquence, vous êtes sur la bonne fréquence 98.4. La radio de l'Entre-deux-Mers et l'animateur que je suis aimerait lancer un tout petit message à tous ceux qui souffrent en ce moment dans cette période inédite. Période inédite, bien entendu, je parle des commerçants, je parle des entrepreneurs, je parle des entreprises, mais je parle également de ceux qui se retrouvent seuls, qui se retrouvent coincés, qui se retrouvent péniblement dans le besoin, dans la détresse à la maison, pendant cette période de confinement qui n'est pas simple à vivre. Période inédite, situation inédite, donc on est obligé de prendre des décisions. Et je voudrais que cette radio de l'Entre-deux-Mers, eh bien, vous apporte un peu de bonheur, un peu de joie, un peu d'espoir. Mais dans tous les cas de figure, il ne faut pas se la jouer égoïste, il faut la jouer collectif, c'est tous ensemble. Quand on vous demande de porter un masque, eh bien, c'est pas uniquement pour vous, mais c'est pour les autres et c'est aux autres qu'il faut penser. Donc je ne veux pas attrister l'émission, bien au contraire, mais savoir seulement que nous comprenons tout ce qu'il se passe dans cette ruralité et on a de la chance quelque part d'être dans la ruralité et de savoir que nous sommes bien entourés. Donc à toutes et à tous, tous ensemble, courage, force et amour, et ça on sait le donner. J'ai deux amours devant moi, j'ai deux jeunes qui sont absolument délicieux, donc je ne vais pas vous donner leur mensuration, sinon il va y avoir une émeute à Sauveterre de Guyenne dans quelques minutes. J'ai le sieur Yannick et Emilian avec un A. Donc je sais qu'à la radio ça ne se voit pas, mais c'est Emilian avec un A. Ils sont tous les deux barbus, ils sont tous les deux joviales, ils sont tous les deux... je dirais entrepreneur, et ils nous viennent de Lugasson, voilà, Lugasson, cette petite zone géographique, pas très loin de Sauveterre de Guyenne, et contrairement aux idées reçues, ils passent la moitié de leur temps, sur une année de 12 mois, la moitié de leur temps à produire quelque chose que vous connaissez bien, puisque l'on en consomme régulièrement, c'est des champignons. Donc ils ont une champignonnière en sous-sol, si vous l'avez compris, dans des souterrains, dans des caves cachées. Ils ont 30 km de caves et en surface, eh bien, on verra ce dont ils parlent. Et les autres 6 mois de l'année, eh bien, ils donnent leur temps à des ONG, des organismes non gouvernementaux, pour aller aider les populations, notamment au Congo, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Et Emilian, avec un A... lui, il part plutôt vers le Vietnam, je crois.
La Syrie.
La Syrie.
Ouais. Moins touristique, mais tout aussi joli.
Bien entendu, oui, tout à fait. On m'a toujours dit que moi, les Juifs avaient eu un problème il y a 2000 ans avec un charpentier, et maintenant ils ont des problèmes avec toute la Syrie.
Pas mal.
Voilà. Donc on va parler champignons, on va parler de leur motivation et leur dire, ben moi j'aimerais bien leur poser la question, pourquoi, comment vous êtes-vous rencontrés, parce que c'est une histoire de copains, une histoire de potes si j'ai bien compris, une histoire qui commence. Vous avez commencé l'année dernière au mois d'octobre, il y a un peu plus d'un an, à produire des champignons. Pourquoi Lugasson, pourquoi des champignons? Vous êtes du sud-ouest, vous êtes d'ici, vous êtes de là, vous êtes d'ailleurs, vous venez d'où, vous allez où? Allez, le premier qui va parler, c'est Yannick.
Alors moi, Yannis, c'est
Yannis, excusez-moi, la Provence, Yannis.
Personnellement, je viens d'Île-de-France, donc, que j'ai quitté il y a plus de 10 ans maintenant. Et voilà.
Suivant. Le micro, voilà, c'était juste un petit problème technique. Yannis, il vient de l'Île-de-France.
Voilà. Et on s'est connu avec Emilian lors de nos études, du coup, pour travailler dans l'humanitaire, dans une école qui s'appelle Bioforce.
D'accord, où ça?
À Vénissieux, juste à côté de Lyon.
Oui, Vénissieux, bien entendu, Lyon. Et toi, Emilian, tu es d'où?
Et moi, je suis le local de l'étape. Je suis Lugassonnais.
Ah, il est Lugassonnais. Ah, ouais, d'accord. C'est ça. D'accord, très bien. Donc, vous êtes rencontrés en école, en études. Vous êtes partis faire de l'humanitaire chacun de votre côté, en fait. Vous n'avez jamais travaillé ensemble dans l'humanitaire.
Jamais.
Jamais. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à planter des champignons ? Racontez-nous tout ça.
Alors, je dirais que c'était l'opportunité qui a fait le rond. J'étais en Centrafrique l'année dernière, en 2019, du coup, au cours du mois de mars, février-mars, Emilien m'a appelé, m'a parlé d'une envie, d'un projet de champignonnière. Et après, je vous laisserai raconter sa partie de l'histoire. Et voilà, il m'a dit qu'il voulait se lancer, chercher quelqu'un pour l'accompagner dans cette aventure. Je lui ai demandé une semaine de réflexion, suite à quoi je l'ai rappelé et je lui ai dit allons-y.
Très bien, ça c'était l'année dernière. Emilien, vas-y, raconte-nous ta version maintenant.
Ma version, c'est un peu la même. Ben, moi, ça faisait 10 ans voilà, que je voyageais, un peu fatigué parce que c'est des missions qui sont dures, comme je dis souvent, éprouvantes pour le corps et pour l'esprit, dans des contextes d'urgence où je travaillais principalement. Et j'avais besoin de, comme on dit, quand on ne sait plus où on va, il faut regarder d'où on vient. Donc c'était le retour aux sources. Et un ami, un voisin nous avait parlé de ces galeries abandonnées qui étaient sous le domaine viticole familial. Et je me suis dit pourquoi pas, les champignons c'est vrai que c'est intéressant, ça change du vin qui est omniprésent dans la région. Et j'ai appelé Yanis parce que je ne l'aurais jamais fait tout seul et je l'aurais fait qu'avec Yanis. Donc je l'ai appelé et je lui ai dit vas-y on fait des champignons puisque ça faisait quelques années qu'on discutait voilà, de projets agricoles, de retour à la campagne. On avait toutes ces idées-là de développer un peu une autonomie alimentaire, d'une ferme. Et voilà, ça a pris une semaine pour se décider. En 3-4 mois, on avait créé notre entreprise et on s'est lancé tambour battant en octobre 2019.
D'accord. Vous avez acheté le lieu ou on vous le prête ?
On nous l'a, plus que ça, on nous l'a donné grâce à la gentillesse de ma famille. Et surtout que voilà, c'était abandonné.
Donc. On remercie la famille parce que ça c'est un joli cadeau, même si c'était abandonné et des galeries.
Tout à fait.
Vous en faites-vous un lieu de culture. Alors racontez-moi ces champignons, quelles sont les variétés de champignons que vous faites pousser, quelles sont les conditions, c'est-à-dire l'hygrométrie, la température, la luminosité, tout ça c'est compliqué, tout en étant très simple également, mais à condition de respecter des normes logiques de ces champignons. Vous faites des pleurotes je crois ?
C'est ça, on fait entre autres du coup des pleurotes. Et également du shiitake.
Du shiitake.
Voilà. On a choisi ces deux variétés parce qu'au niveau des conditions, justement, elles ont des besoins assez similaires qui correspondent quasiment parfaitement aux conditions des carrières. Donc avec un taux d'hygrométrie assez élevé, on tourne autour de 95%. Et la température qui est très stable, on observe une variation selon les salles de 2-3 degrés, 4 degrés peut-être, entre le minimum et le maximum. Qu'on soit en été ou en hiver.
D'accord, oui. Il ne faut pas qu'il y ait de choc thermique, en fait.
Non.
Il faut qu'il y ait une continuité. Et les carrières, c'est vraiment génial. Elles sont à combien de mètres sous terre ?
Alors, ça varie. La couche supérieure que certains appellent le cerveau fait entre 2 et 6 mètres, si, quelque chose comme ça.
D'accord. Ces carrières, donc, étaient utilisées certainement pour extraire les cailloux et faire des maisons, des bâtisses ?
Tout à fait, il y a tout un historique qui est à l'image de nos territoires. C'est vrai que dans l'Entre-deux-Mers, il y en avait des centaines. Ça a été à Lugasson, elle a été ouverte en 1870. On a retrouvé les documents des ancêtres pour extraire la pierre, qui a notamment été utilisée pour construire Bordeaux et les villes aux alentours. Donc de 1870 jusqu'en 1930, on a encore les dernières inscriptions des carriers. Sur le lieu, et après ça les conditions comme Yanis a expliqué idéales pour le champignon, et à l'époque c'était le champignon de Paris, et dans nos carrières jusqu'en 1990 ça a été Champico, qui était une grosse coopérative que je pense que plein de gens qui écoutent vont reconnaître, qui était une grosse coopérative de champignons de Paris qui employait plus de 500 personnes dans le coin. Il y avait 3 carrières, un centre de compostage, un centre d'emballage arrosant. Donc c'était vraiment le gros pôle économique de la région. Et avec le début de la main-d'œuvre moins chère à l'étranger, c'est maintenant les fameux plans de sociaux.
Oui,
les plans,
bien sûr.
Voilà, qu'on a connus des années 90 dans notre région, où la main-d'œuvre polonaise et hollandaise était moins chère. Donc toute Champico a fermé. Et c'est là où nous, 40 ans après, on est arrivé là dans les ruines de ce capitalisme pour nettoyer 7 tonnes de déchets, rouvrir, sortir, c'était sous les végétations, on ne voyait plus l'entrée. Et voilà, et relancer une production biologique de champignons.
Champignons bio, production quasi journalière en fait.
Pas quasi, oui. Journalière, on récolte tous les jours, 7 jours sur 7.
7 jours sur 7. Quelle est la quantité en poids de champignons récoltés chaque jour, en moyenne ? Le pondéré, hein.
C'est variable, mais voilà. Comme hier, par exemple, on a ramassé 30 kilos de champignons. C'est une
bonne moyenne.
Une grosse moyenne. Oui.
Ces champignons sont vendus où et à qui ?
On les vend beaucoup sur les marchés. Alors, aux alentours, on est toujours à moins de 20 km pour les marchés.
Donc, on est sur des circuits courts, on est sur du produit bio. Et les champignons sont vendus au kilo, à quel prix, en fait ?
Alors, sur les marchés, donc je dis, ouais, sauf Terre, Crayon et Bran, et ils sont à 12 et 14 euros, 12 le pleurote et 14 le shiitake. Et ensuite, on fait aussi des ventes aux carrières, où là, on fait un prix meilleur marché à 10 et 12. Donc 10 pleurote, oui. 12 shiitake.
Ce qui est tout à fait normal, puisque là-bas, vous êtes chez vous, alors que sur les marchés, il faut payer l'emplacement, le déplacement, ce qui est tout à fait normal et logique. Il y a des charges fixes qui sont là. Et donc 12 euros le kilo de champignons frais bio, ben, écoutez, c'est pas cher du tout. Est-ce que vous vendez également, vous distribuez un petit peu dans les magasins bio de la région ?
Alors, les magasins bio, pas forcément. Parfois, c'est rare. On travaille plutôt avec d'autres maraîchers ou alors avec des associations, beaucoup, qui sont leur groupement d'achat ou AMAP, avec lesquels on commence à travailler cette année.
Et le but, donc vous m'avez expliqué qu'en 2019, vous avez produit, enfin sur la saison 2019 et début 2020, je pense, puisque vous avez dit que c'était en moyenne 6 mois, vous avez produit environ 1 tonne de champignons.
De chaque variété, à peu près.
De chaque variété, ce qui fait 2 tonnes sur l'ensemble de la production. Mmh. Cette année, vous avez l'intention d'aller plus loin, d'embaucher du monde, de donner du travail à des jeunes ou non ?
Non. Alors déjà, la saison va être un peu plus longue cette année, comme on a commencé la production fin août déjà.
Oui.
Déjà fin août, on était présent sur les marchés. Donc on va produire un peu plus du fait de la période de saison. En revanche, on n'a pas l'intention d'augmenter le volume au niveau du champignon. L'idée, c'est vraiment d'élargir. Le champignon, c'était le point de départ. Et voilà, d'élargir un peu la gamme à d'autres produits autres que les champignons.
Oui, du style.
Du style, les endives.
Le fameux chicon.
Voilà.
Le chicon belge du nord de la France. Donc cette endive, ça tourne dans votre tête et vous avez l'intention de le faire ou c'est déjà fait ?
On a déjà essayé l'année dernière, c'était un franc succès, mais on n'avait que 70 endives, donc c'est vite parti, on n'a même pas pu les goûter. Et cette année, on a trouvé un producteur de racines d'endives bio derrière l'aréole. Et on est en train de faire les essais, mais en ce moment, il fait un peu chaud, donc ça ne marche pas beaucoup, mais on va continuer à essayer, c'est un peu notre spécialité. Et c'est aussi le projet de, comme disait Yanis, de diversifier la production. Donc c'est pas que les carrières et pas que les champignons, mais on est aussi en train de monter une ferme collective. Nous, on habite au-dessus des carrières, en habitat léger. Et il y a Camille qui nous a rejoint il y a quelques mois. Et avec Camille, on est en train de lancer du maraîchage, des œufs pour faire des poules pondeuses. Donc c'est aussi un projet qui est un peu plus global que la carrière.
Genre de ferme pédagogique ?
Entre autres, mais aussi une ferme qui fonctionne, une ferme en polyactivité.
En autarcie, en fait ?
Non, justement, c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup, l'autarcie, on est sur l'autonomie.
Je retire tout, excusez-moi Yanis et Emilian.
Non, l'autarcie, ça fait un peu refermer sur nous-mêmes, et nous, au contraire, on est ouvert sur le monde autour de nous, et on veut accueillir du monde.
Vous n'êtes pas comme les Amish, en fait.
Je suis Amish, si c'est contre la 5G, par contre, je suis Amish. Mais je ne suis pas Amish à la ferme à Lugasson. Non, on veut accueillir du monde, on veut viser une autonomie,
d'accord,
produire
et donner envie aux autres et que ce soit contagieux, votre histoire.
Tout à fait.
Parce que moi, exactement, je la trouve très belle, et je la trouve intelligente, je la trouve sensée, moderne, parce qu'on est allé trop loin dans l'autre sens et on se rend compte aujourd'hui à quel point de revenir aux sources. Quand on va trop loin, quelquefois, sans avoir respecté les panneaux de signalisation, eh bien, on est dans l'impasse dans laquelle nous nous trouvons actuellement dans notre bien joli pays. Donc, endives et champignons, ça va ensemble, en fait, parce qu'il y a des recettes culinaires, moi qui suis en cuisine régulièrement, il y a des recettes merveilleuses avec les endives et les champignons qui se marient bien. La pleurote est un champignon croquant, est un champignon rigolo qui n'a pas beaucoup de goût, mais qui apporte une certaine originalité à pas mal de viande dans des sauces également, rôti de veau, lapin, volaille, une petite poêlée de champignons, de pleurotes. Moi, je dis que c'est sympa. Et surtout que c'est très pauvre en protéines, le champignon. Et je crois qu'il faut 1 kg de champignon pour obtenir 100 g de protéines. Donc,
pas le shiitake.
Pas le deuxième.
Le
shiitake est riche en protéines. Et justement, enfin pour les...
Ah d'accord. Alors,
je ne vais pas froisser les végétariens en disant ça, j'espère. Mais il y en a qui disent que c'est un peu le complément de viande pour les végétariens.
Combien de protéines dans 1 kg? Oui.
Technique.
Pas mal.
Excusez-moi. Alors, je sais que le champignon en France, les champignons comestibles, les 60 variétés de champignons comestibles, détiennent en moyenne 10% de protéines. Voilà. C'est une moyenne pondérée sur l'ensemble, à plus ou moins, bien entendu. Donc c'est un champignon qui est très très bon, et puis les végétariens peuvent en prendre aussi, et puis s'il y a des véganes aussi, puisque le véganisme est en train de prendre pas mal de place dans le monde, le monde du fonctionnement, je dirais, de l'être humain. Je ne porterai aucune valeur de jugement. Donc des champignons, 1 tonne de chaque variété, des endives, le but de l'endive c'est d'en produire combien, si tout va bien ?
On n'a pas encore estimé le volume, on va voir. Il y a beaucoup de demandes. On a commencé à en parler la saison dernière, en vendant un petit peu comme le disait Emilien. Et aujourd'hui, chaque semaine sur les marchés, les gens nous relancent sur les endives. Donc on verra. Mais l'idée, c'est pas de se tuer à la tâche sur un produit, c'est de garder le plaisir de faire ce qu'on fait et avec la diversité.
Très bien. Donc si vous habitez la région, si vous êtes dans le coin, des bons champignons en circuit court, 10-12 euros le kilo à la propriété, c'est comme ça qu'on peut le dire. Mais on ne peut pas venir n'importe quand, n'importe comment. Vous vendez comment à la propriété ? Quand ?
De 9h à midi, les samedis. Samedi matin, de 9h à midi.
De 9h à midi, tous les samedis matins, y compris les jours fériés, de 9h à midi, une bonne poêlée de champignons, vous allez pouvoir les acheter sur place. Ils seront frais, ils seront des champignons de la nuit, des champignons de minuit, des champignons de vos nuits. Est-ce qu'on peut donner un numéro de téléphone, une adresse, un lieu ? Emilien.
Tout à fait. Il faut savoir que le samedi matin, on vend du vin nature de notre voisin et ami Antonin Jamois, l'Île Rouge. On vend le miel de Sophie de Gornac, la bière Cabestan de Sainte-Croix-du-Mont. Donc voilà, on essaie aussi de valoriser les produits locaux du coin.
Donc, vous l'avez entendu, il y a de la bière et du vin. Nous sommes associés, bien entendu, à la législation française qui nous impose le petit bandeau en disant que la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé. Moi, je dis tout simplement qu'il faut consommer raisonnablement, voilà, et intelligemment. Tout excès n'est pas bon. Donc, consommer, la radio est associée, bien entendu, à la prévention de l'alcoolisme. Donc, vous vendez du vin de la famille, en fait, si j'ai bien compris.
Non, d'un voisin et ami.
D'un voisin.
L'Île Rouge, ça s'appelle.
L'Île Rouge,
donc. Dédicace à Madagascar, où il a passé 10 ans.
D'accord. Il est en quelle appellation ? Bordeaux ?
Il est en vin de France. Il n'a pas choisi l'appellation, mais il est en vin nature. C'est le nouveau label qui est...
D'accord. Voilà. Quand on ne respecte pas l'encépagement, les proportions, donc c'est du vin de France. Vous vendez une bouteille combien ?
Il est vend. Nous, on est en dépôt-vente, donc on ne prend pas de marge dessus. Et ça dépend de...
De l'appellation, enfin
du millésime, mais il fait du vin pétillant, enfin des choses assez originales dans le coin. Ça va entre 11 et 16 euros.
Oui, très bien. Ensuite, vous vendez du miel.
Tout à fait.
Il faut protéger les abeilles.
Malheureusement, ce n'est pas facile en ce moment.
Mais avec la grosse bébête qui vient nous bouffer toutes nos abeilles, c'est un véritable problème. Ensuite, les pesticides.
Les néonicotinoïdes.
Comment ?
Les néonicotinoïdes qui ont été réautorisés.
Ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte. Je le dis, je crie haut et fort. Pensons à nos enfants, à nos petits-enfants. Pensons à cette pépinière de demain dont vous faites partie. Vous, les jeunes, l'héritage, il n'est pas bon, là. On vous laisse une belle merde entre les mains, si je puis le dire. Et c'est pas un cadeau, quoi. C'est pas un cadeau. Les Monsanto, les Roundup et compagnie... Tous ces produits qui ont été utilisés pendant des années et des années. Mon beau-père est mort d'un cancer généralisé pour avoir utilisé trop de pesticides. Mais c'était des instructions qui étaient données par les CAF coopératives à l'époque et ils suivaient les instructions. On leur disait des hectares, tant de produits, tant de flottes, le matin, le soir, et on y va. Sans masque, sans rien du tout, bien entendu. On les envoyait au casse-pipe se battre contre des ennemis inconnu, tout du moins du public, mais connu de ceux qui fabriquaient les produits.
Tout à fait.
Les endives, je reviens à mes petits chicons. Les endives, l'idée, c'est d'en produire combien ?
C'est pas encore fixé l'idée. On pensait au début commencer avec une dizaine de kilos par semaine pour voir comment ça se développait.
Et à partir du moment où vous plantez, il faut combien de jours pour avoir une endive ?
Si on part de la racine, c'est 3 semaines à peu près.
D'accord. Les champignons, voilà. C'est combien ?
Les champignons, ça va plus vite. Oui. À partir du moment où ils commencent à pointer leur nez, en une semaine, on les récolte.
D'accord. Et après, tous les jours, ça...
Et tous les jours.
Très bien. Mais écoutez, Lugasson, on n'a pas laissé un numéro de téléphone.
Alors, le lieu dit aussi, parce que c'est pas dans le bourg de Lugasson, c'est Le Charron, donc C-H-A-R-C-H-A-2-0-N, pardon. Et donc, le numéro...
Numéro de téléphone.
07 67 50 54 45.
Répétez le numéro de téléphone.
07 67 50 54 45.
Et le Facebook.
Et le Facebook.
Le Facebook. Mais je m'adresse également aux professionnels, c'est-à-dire aux restaurateurs, certes, qui sont fermés en ce moment. Je pense également à ces épiciers de village qui ont besoin de champignons, de mettre en avant des produits en circuit court. À Lugasson, vous avez 2 jeunes vachement sympas et vachement malins et vachement intelligents qui produisent des champignons qui vont certainement produire quelques endives qui se vendront à la pièce et non pas au kilo, parce que ce sera des endives collector. Donc ne vous gênez pas, ils vous livrez également pour les professionnels ou pas ?
Oui, pour les professionnels.
Oui, un épicier, un maraîcher qui vous demande de vendre des champignons, ok, très bien.
Oui, après voilà, le prix est adapté évidemment, si on fait la livraison, oui, pour des petites quantités, on va pas traverser, enfin on reste vraiment dans un périmètre proche. Donc,
bien sûr. Voilà. Yanis Emilian avec un A. Eh bien, nous vous souhaitons un franc succès. Nous souhaitons à tous les auditeurs de la radio de l'Entre-deux-Mers, eh bien, d'aller s'approvisionner chez vous en champignons frais. Redonnez le nom des 2 champignons en dehors de la pleurote. Il y a
le shiitake, également appelé le lantin de chêne.
Le lantin de chêne et la pleurote. Nous vous remercions d'être venus à notre rencontre. C'est un véritable bonheur, un véritable plaisir. Vous êtes bien sur 98.4, la radio de l'Entre-deux-Mers. Ils font également dans l'humanitaire, et ça, c'est quelque chose de louable.
Juste une petite chose aussi sur le même lieu, juste pour une petite parenthèse, avec une petite quinzaine de voisins et amis, on a créé aussi une association qui s'appelle les colocataires, TE2RES à la fin. Qui va être amené à être plus connu, on l'espère, mais voilà, qui a pour objectif de recréer du lien un petit peu dans nos ruralités, faire se retrouver les gens, voilà, parler ensemble, réfléchir ensemble.
Comme le griot en Afrique, qui le soir raconte des histoires.
La palabre.
La palabre, les narrateurs. C'était joli, ça, au pied du baobab. Mon Dieu, que de souvenirs, que de souvenirs. Elle se prénomme... Comment c'est, hein ? Ah non, il y a le président qui... Ah non, il ronflait, excusez-moi, il ronflait.
Non.
Elle se prénomme Isabelle, elle se nomme Boulet, et je n'ai jamais entendu une chanson d'homme interprétée par une femme a cappella aussi bien. Vous savez, passer derrière Jacques Brel, c'est impossible. Beaucoup s'y sont essayés, c'est vrai qu'on peut, non pas l'imiter, mais chanter pour les paroles. Isabelle Boulet chante cette chanson... de façon exceptionnelle, avec sa voix venue d'outre-Atlantique, cette Québécoise qui vit avec notre ministre de la Justice en France. Eh oui, elle est mariée avec le ministre de la Justice. Écoutez Isabelle Boulet qui chante Amsterdam.
Amsterdam, y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, pleins de bière et de drames, aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent, dans la chaleur épaisse des longueurs océans. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer l'infortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leur grosse main invite à revenir en plus. Puis se lève en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en retard. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors les gestes graves, alors le regard fier, ils ramènent leur bataille jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam.
Et voilà, on fait un coucou à Jacques Brel, qui nous a quittés il y a fort longtemps, rappelez-vous. Eh bien oui, ce brave Jacques côtoie les étoiles, et il brille là-haut, et il enchante les anges. Et nous sommes à Sauveterre de Guyenne, et à côté, bien entendu, à côté de Sauveterre de Guyenne, il y a une belle bourgade au bord de la Garonne, qui s'appelle la Réole. Et à la Réole, eh bien, il y a des commerçants, à la Réole, il y a des entreprises, à la Réole, comme dans d'autres villes de France, eh bien, à période inédite, situation inédite. Et je reçois Madame Hélène de la Vallade, qui est conseillère municipale, en charge de...
Du commerce.
En charge du commerce.
Et du centre-ville.
Et du centre-ville. Bonjour Madame, soyez la bienvenue. Donc vous êtes une élue de la ville de la Réole.
Oui, absolument.
Approchez-vous du
micro.
Pardon.
Tout simplement. Je n'ai pas l'habitude.
J'aimerais que vous nous expliquiez, madame, en cette période totalement inédite, quelles ont été les décisions qui ont été prises par les élus et par votre... puisque vous êtes proche de ces commerçants, vous êtes proche du centre-ville. Oui. Je connais un chocolatier, monsieur Brossard, je connais du monde à la Réole, des gens absolument délicieux, adorables. Comment se passe ce confinement? Comment se passe cette véritable crise compliquée et complexe, madame?
Eh bien, écoutez, ça se passe difficilement, mais ça se passe avec le plus de solidarité possible, comme on essaie de le faire à la Réole, et on essaie d'être très, très réactif. On a la chance d'être un peu important comme ville, mais assez aussi soudé et avec une taille qui nous permet d'être présent auprès de un petit peu tout le monde. Donc on a été, dès le 29 octobre, quand le président Macron a annoncé le confinement, dès le lendemain, on s'est réunis en cellule de crise avec la mairie, avec des représentants de la communauté de communes également. Et il y a eu le premier temps qui a été proposé, c'était de faire un courrier adressé aux trois grandes surfaces qui sont sur notre ville, qui sont les trois plus grandes surfaces de, la, de notre territoire, et se faire un courrier qui a été co-signé immédiatement par l'ensemble des maires de notre communauté de communes et adressé à, donc, aux directeurs de, d'Intermarché, Lidl et Netto, qui sont les trois grandes surfaces qui sont présentes. Et dès le lendemain, le maire est allé les rencontrer. Ils avaient eu connaissance de notre courrier et ont eu une, ils ont proposé, enfin ils ont accueilli le maire et notre courrier avec, avec, je dois dire, beaucoup de générosité. Et on, donc la, le, la teneur du courrier étant de demander de la solidarité, et on était un petit peu en avance puisque on avait demandé à ce que ils acceptent s'ils étaient d'accord pour fermer un rayon de d'articles de non nécessaires, enfin pas de première nécessité,
non essentiels
par semaine, voilà, et pour faire preuve de solidarité avec les commerces de proximité qui étaient vraiment dans, qui sont vraiment en grande détresse.
Alors il est bien évident que nous ne parlons pas de politique, je le précise, nous parlons avant tout de solidarité.
Absolument.
De fraternité et de besoins d'urgence dans un contexte inédit, madame.
Donc, je suis tout à fait d'accord.
Donc, sachez qu'à travers cette radio, nous voudrions remercier, bien entendu, tous les élus et l'équipe municipale en place de vos interventions et de vos prises de décisions. Alors, quelles ont été ces décisions qui ont été prises, en dehors de la fermeture de certains rayons de ces grandes surfaces non essentielles? Non,
voilà. Alors, là, aussitôt après, donc, ils ont accepté. Nous avons édité un flyer qui présentait les différents commerces qui étaient fermés, les commerces de proximité qui étaient fermés, mais qui pouvaient être en click and collect. Excusez-moi. Et nous avons édité ces flyers. C'est trois grandes surfaces ont accepté de les distribuer à leur caisse. Et donc, il y avait déjà un premier appui visuel pour les gens qui venaient faire leurs courses et qui pouvaient voilà, être interpellés par ce listing, si vous voulez. Et aussitôt après, dans la foulée, nous sommes allés rencontrer tous les commerçants de l'Aréole. Tous les commerçants, nous avons contacté par téléphone et ensuite été les rencontrer pour leur proposer, d'abord pour prendre un petit peu des nouvelles, voir dans quel état ils se trouvaient, et pour leur proposer une mise en place de vente en ligne avec un site qui était
dédié.
Un site dédié qui est un site, une plateforme citoyenne et totalement gratuite. Je dois dire que tous les commerçants ont accepté directement. Donc on les a. Je fais une pause ? Non, je continue.
Non, vous pouvez y aller, madame.
Tous les commerçants ont accepté de jouer le jeu donc il y a eu un accompagnement avec l'adjoint à la communication qui avait travaillé sur ce site pour le mettre en place et qui est également photographe. Donc on a aidé un petit peu les commerçants à prendre des photos, à expliquer le fonctionnement du site. Et dès la première semaine, on a eu une dizaine de commerçants, et maintenant ils sont plus de 24, enfin quasiment tous ceux qui sont qui ont fermé administrativement mais qui ont droit à faire du click and collect, se sont mis sur ce site. Et le plus que nous avons eu, parce que donc c'est une plateforme, mais il a été créé à la ville un site dédié qui s'appelle, je le signale pour tout le monde, www.com. l'aréole-commerce.com. Sur ce site, quand vous allez dessus, vous avez de lister tous les commerçants qui sont en click and collect avec une photo de chaque devanture, donc qui remémore un petit peu qui permet de visualiser les commerces, et avec un lien qui amène directement sur le site en ligne qui s'appelle Ma boutique en ligne. On clique dessus et là on arrive sur le site, sur la plateforme elle-même qui permet de, voilà, vous avez tous les commerces qui apparaissent et vous allez sur le commerce de votre choix. Ça vous permet de voir d'autres commerçants que ceux auxquels vous aviez pensé. D'accord. Et ça nous a permis de lister également, on a mis tous les autres commerçants, puisqu'il ne faut pas oublier ceux qui sont ouverts, comme voilà, M. Brossard, dont vous avez parlé, qui est ouvert, mais beaucoup de commerçants sont ouverts et les gens ne viennent pas forcément trop,
bien sûr,
chez eux. Donc on essaie d'aider le plus possible.
Sans dévoiler quoi que ce soit qui reste dans le domaine du discret, oui. Est-ce qu'il y a des commerçants qui sont très mal à la Réole ?
Il y a des commerçants, oui, qui sont. Je pense qu'il y a des commerçants qui sont très mal. De toute façon, le premier confinement avait déjà été une période quand même très, très difficile. Avait été très difficile. Donc, ils ont du mal à rebondir. Et puis, moralement, c'est quand même très difficile. Donc, là, en ça, on arrive un petit peu à. En se serrant les coudes et en étant très solidaire, en partageant avec eux. À améliorer, mais après tout le reste,
ce qu'il faut bien, c'est le jouer collectif, en fait.
Voilà,
c'est absolument. Faut surtout pas être égoïste.
Absolument.
Et on redécouvre la fraternité, la solidarité, et ça, c'est une très bonne initiative de la mairie de La Réole. Si toutes les municipalités pouvaient en faire autant, ce serait génial. Donc c'est un modèle à reproduire, c'est un modèle à mettre en avant, madame, et nous tenons à le souligner ici, et remercier encore une fois tous les élus de l'équipe municipale, et je le dis bien, nous ne faisons pas de politique, mais nous sommes dans une situation inédite, la situation inédite, décision inédite, et surtout émission inédite. Donc, madame, sachez et soyez retransmettre lorsque vous rentrerez sur la Réole, eh bien, à votre maire et à tous ses adjoints et à tous ces personnes qui sont des altruistes, en fait, parce que n'oubliez pas que dans une mairie, eh bien, il faut être altruiste pour pouvoir être élu sur une liste. Il faut savoir donner de son temps, donner de son cœur, donner de ses idées. Ce que l'on voudrait, madame, c'est que l'intégralité des commerçants de la Réole s'en sortent, sans trop d'égratignures, et d'être présent. Et sachez que la radio saura être présente à l'écoute. Et n'hésitez pas à nous contacter, madame, pour que l'on puisse véhiculer sur les ondes de la radio de l'Entre-deux-Mers 98.4 bien tout ce qu'il faut pour pouvoir aider et venir subvenir à ses besoins. Et s'il en était ainsi, madame, eh bien sachez que Téléshopping s'associera, non pas pour faire de la pub pour Téléshopping, s'associera à cette manifestation, provoquer, je ne sais pas moi, un jeu pour redonner envie aux clients de venir dès que le déconfinement sera prononcé. Eh bien, nous pourrons offrir une dotation de cadeaux de la part de Téléshopping pour faire venir les clients et puis qu'ils puissent s'en sortir sans trop de dégâts. Parce que n'oubliez pas que les commerçants qui sont indépendants sont très souvent caution de leurs entreprises. Ils ont mis leur maison, leur appartement en hypothèque. Et sachez qu'un commerçant qui est au chômage ne touche pas le chômage. Il n'a rien pour vivre. Il peut toucher éventuellement le RSA ou le RSI. Non, pas le RSI, ça n'existe plus, mais le RSA. Donc c'est important de le souligner, madame.
Ah bah écoutez, je vous remercie infiniment parce que toutes ces paroles, tout ce que vous dites, c'est ce qu'on essaie de transmettre au niveau de la municipalité. Et c'est vrai qu'on essaie d'être au plus près de ces commerçants. Mais c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, justement, en attendant de passer à l'antenne. Et ce qui est important, c'est que tous les gens fassent preuve de cette solidarité et que... On peut consommer un petit peu moins peut-être, mais consommer mieux. Et c'est vrai que les vitrines et les rideaux baissés, c'est absolument inenvisageable pour la vie, pour ce qu'on veut offrir à nos enfants, ce que veulent vivre les gens actuellement. Voilà, j'espère que
à un mois
ce
ne
sera
de
pas
Noël.
Un vœu pieux. Oui.
Madame Hélène de la Valade était notre invitée aujourd'hui pour parler de cette ville de La Réole. C'est une élue, elle est en charge du commerce. Elle est en charge du commerce à La Réole, qui, comme dans toutes les autres zones géographiques, ne se porte pas très très bien. Donc soutenons, et je m'adresse à tous les Réolaises et Réolais, de continuer d'aller chez ces commerçants et dès leur réouverture pour ceux qui sont fermés, ne commandez pas sur Internet, ne commandez pas auprès des majors de l'Internet, je ne citerai pas leur nom, vous les connaissez aussi bien que nous. Sachez attendre un tout petit peu, il n'y a pas d'urgence pour acheter les cadeaux de Noël, il n'y a pas d'urgence pour acheter les bouquins, il n'y a pas besoin de surcharger la poste. Donc merci Madame Hélène de la Valade d'être venue à notre rencontre. Nous allons écouter un morceau de musique, une chanteuse dont on ne parle pas trop souvent, je trouve que c'est dommage parce qu'elle a une belle voix, elle est d'origine belge, elle est rousse, elle se prénomme Axel, de nom de famille Red. Elle nous chante Sensualité, c'est une petite bouffée d'oxygène. Axel Red, Sensualité. Madame de la Valade, adjointe donc au commerce, merci d'être venue, merci de soutenir ces commerçants, merci de soutenir la ville de La Réole. Et la radio participe et partage et saura vous être utile. Ne vous gênez pas, madame, la porte est ouverte, grande ouverte, pour véhiculer toutes les informations et tout ce qu'il faudra pour que La Réole, les commerçants puissent s'en sortir et passer un joyeux Noël.
Je vous remercie infiniment au nom de la municipalité et de tous les commerçants. Merci.
Jamais je n'aurais pensé. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop, un instant, j'aimerais que ce moment vite pourrait t'abonner, ta sensualité. Il paraît qu'après quelques temps, la passion s'affaiblit, pas toujours apparemment. Et maman m'avait dit, ralentis, des yeux au amour, tu le sauras un jour. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement.
Axel Red, merci, elle s'occupe de l'humanitaire, elle est ambassadrice auprès des Nations Unies pour les enfants qui sont blessés sur des bombes antipersonnelles notamment dans les pays où il y a eu la guerre du Vietnam pendant des décennies. Je suis avec deux personnages ici aujourd'hui, 98.4, la radio de l'Entre-deux-Mers. Je suis avec Monsieur Patrick Brossard, chocolatier à l'Aréole, mais je suis également aussi avec un homme ô combien adorable, ô combien délicieux, avec la voix, une voix chaude, sécurisante, apaisante. Il devrait faire des séances le soir à la radio pour parler. Ça me rappelle Macha Meryl, ça me rappelle des gens qui... Allô, oui, je suis amoureuse d'un poisson, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Madame, vendez votre lit, achetez un aquarium. Je suis avec Alain Darmian.
C'est un peu trop là, Gérard. Hein.
Alain Darmian. Avec son sourire inénarrable, il va nous parler des cruches, puisque lui est le président de l'association des cruches. Il est de Sadirac et il est la première cruche française. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette association et de ce qu'il va se passer, et de ce qu'il se passe malgré le confinement, malgré tous les problèmes que nous connaissons. Sadirac, aux portes de l'Entre-deux-Mers, à côté de Fargues-Saint-Hilaire, à côté de Lignan, le long de la piste cyclable, Guy Lapébille.
C'est tout à fait.
Guy Lapébille, que je connaissais très bien. Il y avait les deux frères Lapébille qui, en 1936, ont refusé la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Berlin, puisque c'était Hitler qui voulait les décorer. Ils ont refusé à l'époque de le faire, et ils sont sortis de l'hémicycle du stade, ça avait fait scandale. Les frères Lapébille, il y en avait un qui avait un restaurant, Place Gambetta à Bordeaux, un restaurant connu.
Les rois des six jours, hein, aussi.
Et les six jours de Bordeaux, et oui. Les six jours de Bordeaux, oui, rendez-vous compte. Moi, j'en avais un, c'était Guy, qui venait souvent dans mon restaurant, et c'était quelqu'un d'adorable. Il est parti il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça. Il a vécu des moments difficiles, mais enfin, c'était deux garçons exceptionnels. On est là pour parler des cruches. On est avec Monsieur Alain Darmian, avec un A à la fin.
Non, Alain. Pas à la fin, Darmian, oui. Tout simplement. Alors, les cruches, vous savez, elles sont en ce moment, elles sont un peu en sommeil, hélas. On essaie de les faire vivre, mais on a pas mal de difficultés, ne serait-ce qu'en se réunissant. C'est un peu compliqué de réunir l'ensemble des cruches. On a un fonctionnement qui se veut être général, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément d'élite dans l'ensemble de l'association. Tout le monde est à peu près au même niveau, et quand on prend des décisions, on les prend à 40. Alors c'est parfois un peu compliqué, mais on y arrive. Donc on a du mal un peu aujourd'hui à réunir nos gens et à programmer quelques manifestations. On a programmé, entre les deux confinements, on a programmé une randonnée qui était celle de la recherche de la cruche d'or. Ça a été un succès assez notoire, puisqu'on a fait promener une 150 personnes dans les contrées de Sadirac, dans les prés, dans les bois, dans les ruines des fours de potiers. Voilà. Et puis on essaie de relancer, on essaie de faire notre fameux gâteau cruche, mais c'est un peu compliqué aussi, parce que sur le marché de Sadirac, on ne peut pas réunir autre chose que des commerçants qui vendent du comestible. Pour l'instant, on est un peu en stand-by. C'est bien dommage, parce qu'on avait beaucoup d'ambition pour cette année, mais on n'est pas les seuls. On a beaucoup de mal à relancer, à trouver trouver des solutions pour redonner un petit peu de cohésion à tout le monde, et des plaisirs à tout le monde de se retrouver en dehors, je dirais, de la télévision. On commence à en avoir marre un peu, hein. Gérard.
J'imagine, Alain, j'imagine que ça n'est pas simple. Donc quid pour demain, quid pour après-demain? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire, de ne pas faire, de plus faire, de refaire?
On voudrait tout refaire. On a notamment abandonné notre spectacle, spectacle des cruches, que l'on réalise tous les ans avec les membres de l'association des cruches. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher Axel Red, par exemple, on n'a pas les moyens, Gérard. Mais on essaie de faire participer le maximum de gens. Là, on est obligé de l'annuler. On attend d'y voir un peu plus clair. D'une part, parce qu'on ne peut pas réunir les gens pour qu'ils répètent, pour qu'ils se préparent. Donc, pour l'instant, je crois qu'on est un peu comme tout le monde associatif, en galère. complet, en galère complet. Et c'est vrai que c'est un paramètre que les gens oublient aussi, hein, parce que le monde associatif est un monde très important, économique aussi. Il faut y penser aussi, hein, c'est un monde économique. On se réunit, par exemple, on va chez le boucher du coin, à Sadirac, chercher des plateaux repas, le faire vivre, voilà. Donc il y a un échange qui se fait. Les gens se rencontrent, donc ça crée du lien social. Et pour l'instant, eh bien,
on est tous refermés sur nous-mêmes, voilà, comme des escargots dans la coquille, en attendant que le vent passe.
Voilà, et on ne propose rien aux gens. Donc il faut espérer que cette situation va vite, vite évoluer. Mais vous le savez aussi bien que moi, c'est un peu compliqué à trouver des ouvertures dans ce qui se passe. C'est quasiment mission impossible. On ne sait pas du tout où on va.
Situation inédite, décision inédite. Vous avez entendu donc Alain Darmian qui nous parlait des cruches. Nous reviendrons tout à l'heure pour en parler encore et encore. Et en face de moi, j'ai un commerçant de la Réole que tout le monde connaît bien puisque c'est M. Patrick Brossard. Il a quelques mots à dire, je crois, concernant la situation actuelle de ce qu'il se passe, notamment dans cette ville de la Réole. Nous avons eu donc Mme Hélène de Lavalade, de l'équipe municipale, qui se débat comme un petit diable. Et Patrick, j'aimerais avoir ta vision de la situation actuellement. Et ta situation à toi, on peut en parler aussi, hein.
La situation, c'est qu'elle est très, très compliquée. Pour des métiers saisonniers comme nous sommes chocolatiers confiseurs depuis plus de 35 ans. Et vu le premier confinement de mars, on a du mal à remonter, même on ne remonte pas, puisque c'est une spirale infernale.
C'est-à-dire que mars, vous avez passé à travers les fêtes de Pâques.
On n'a pu ouvrir que 10 jours.
Voilà, 10 jours.
Donc 10 jours, on a perdu plus de 60% du chiffre. Et c'est saisonnier, donc c'est pas rattrapable l'été, c'est impossible. Donc après, on a démarré donc la préparation de Noël. Et puis là, on a pu ouvrir ce coup-ci. Mais il y a un gros problème financier. Dès que l'économie est touchée, tout le monde en subit les conséquences. Donc les clients sont pas forcément là. Et il y aura un manque à gagner, je pense... au moins entre 10 et 15% sur le chiffre de Noël. C'est presque sûr et certain.
Oui. Donc les gens ne viendront pas, n'achèteront pas de la même façon, n'achèteront pas des produits de qualité, ils vont se rabattre sur des boîtes de chocolat, peut-être dans la grande distribution.
Ils n'auront pas le budget, donc de toute façon, ils vont aller peut-être ou alors chez nous, mais prendre des petites quantités pour se faire vraiment plaisir sur le goût, la qualité. Ce qui serait déjà pas mal. Mais après, je comprends aussi que des familles ne peuvent pas se permettre et ils vont aller, comme tu dis, en grande surface et puis prendre des premiers prix bas de gamme avec des graisses végétales, animales, du chocolat qui ne devrait pas s'appeler chocolat.
Bien sûr, mais la législation est encore très laxiste là-dessus. Voilà. Merci l'Europe.
Et après, on a mis un boulet au pied dans le sens où on a fait le crédit, nous, le crédit d'État, qui sera remboursable de toute façon. En un an, c'est pas possible, puisque déjà, il faut faire le chiffre, plus 25% du crédit, et on n'aura pas le chiffre, donc on pourra pas faire le remboursement du crédit. Donc ça va être 3% qu'on va se prendre sur 5 ans. Donc c'est encore s'endetter, se surendetter. Et à un moment, on se dit, est-ce qu'on va y arriver ? Telle est la question. Est-ce qu'on va y arriver ? Et là, ça fait peur.
Oui. Écoutez bien ce qui se dit. Hein. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que le fait d'avoir... C'est bien les aides, mais il faut les rembourser. Comme tu le dis, avec 3% d'intérêt par an, puisqu'il faut rembourser normalement au bout de 12 mois sans intérêt. Mais qui peut rembourser les sommes d'argent qui ont été allouées par le gouvernement ? Et Dieu sait si elles sont importantes aussi et intéressantes. Mais elles sont cautionnées 80% par l'État.
Exactement.
Et 20% par la personne qui a emprunté. Ce qui veut dire, en gros, c'est qu'il va y avoir des plantages de tous les côtés. L'État va prendre en sa charge les 80%. Et les 20%, c'est toi qui vas payer, c'est les commerçants qui vont payer. Et s'ils ne peuvent pas payer, on va hypothéquer leur maison, on va hypothéquer leurs biens.
Les magasins, les murs et tout, on va être obligé. Après, moi je remercie la Réole quand même au niveau de la mairie et de la communauté des communes, puisque sur le premier confinement, il y a eu un dossier d'aide de fait. Et on a pu avoir une aide sur 2 mois. J'ai pas pu sauver mon apprenti parce que les revenus ne permettent pas. Et puis le partiel s'est arrêté pour moi. Donc j'ai été obligé de la, la mettre chez un autre chocolatier qui tournait plus que moi sur Bordeaux. Donc c'est pareil, au bout de 5 ans, ça fait deuil. Et la transmission ne se fait plus non plus. Donc c'est une problématique. Quand on est passionné, qu'on ne peut plus transmettre, c'est un autre boulet qui se rajoute. Donc voilà. Après, il y a des élus qui s'investissent et j'en remercie.
D'accord, on remercie la municipalité de la Réole. Non, mais enfin, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as un sac à dos et tous les jours, on te fout 10 kilos de plus, quoi.
C'est ça.
On rajoute du sable ou des cailloux, des pierres et on n'en finit plus, quoi.
Et à un moment, il faut prendre la conscience qu'on est obligé de s'arrêter parce que ce n'est pas le surendettement ou le temps qui va résoudre le problème. C'est un faux problème. Moi, je sais que 21, déjà, si je m'en sors à Noël, je serai condamné à travailler que pour payer 21. Je ne gagnerai rien. Je ferai peut-être surface 22, peut-être 22. Voilà, on en est là. En vérité, on en est là.
En vérité, on parle de 2022. C'est de ça dont il faut parler. Parce que 2021, ça va être fait pour payer les dettes. Et Dieu sait s'il y en a, et on sait ce que c'est qu'une entreprise. Il y a l'URSSAF, il y a la TVA, il y a le loyer, il y a l'électricité, il y a le gaz, il y a les charges habituelles de toute entreprise qui travaille, ce qui est tout à fait normal, logique et cohérent. Mais là, on est dans une situation, je dirais, cornélienne et qui ne laisse pas présager de belles journées.
Moi, je touche pas les aides, mais je paye les taxes de mars. Donc je paye les taxes de mars plus les taxes de ce mois-ci. Donc je paye double taxe. Voilà. Ah oui. Je tends une joue, on m'en met une calotte de l'autre côté. Voilà.
Ah oui, ça c'est dur, c'est dur. Alors on ne va pas mettre, on va continuer de parler, on ne mettra pas la troisième chanson, Monsieur le Président, parce que je crois que ce que Patrick a à dire est très important, très intéressant. Qu'est-ce que tu suggérerais, Patrick ?
Moi, je suggère qu'on essaye, au lieu de donner de l'argent, qu'on évite de nous taxer. Déjà, ça serait bien. Nous aider un peu plus sur le long terme, pas sur le court terme. C'est pas en donnant sur un mois, deux mois. Donc, il faut viser sur 2021, 2022 pour les commerces et les restaurants et les bars et tout ça. Et repenser plutôt à l'économie. Je pense qu'on va trop loin en blessant l'économie.
On est sur un modèle économique qui était à bout de souffle déjà.
Oui.
Sans avoir la Covid, on était à bout de souffle. Ça faisait fonctionner le capitalisme, ça faisait fonctionner 2-3 entreprises dans le monde qui détiennent 10%, enfin je crois qu'il y a moins de 10% d'entreprises qui détiennent l'intégralité de la richesse mondiale. Donc on ne va pas citer les noms, on les connaît toutes et tous. Quand j'entends que M. Bezos, lui, se retrouve avec toutes les 5 secondes, il gagne 637 000 euros. Toutes les 5 secondes, 56 ou 57, le fondateur de Amazon, je dirais, c'est grave.
Moi, ce qui me gêne, c'est que qu'il y ait des riches, il y a toujours eu des riches, il y aura toujours des rois, il y a toujours eu des rois, il y aura toujours des rois. Mais c'est qu'on n'aide pas vraiment les petits ou ceux qui n'y arrivent plus. C'est-à-dire que quand on est rendu à regarder pour manger, pour se vêtir... Et Dieu sait que, Gérard, tu me connais, et on a une mission sur la Côte d'Ivoire avec des enfants où on leur paye des fournitures scolaires. Et on est rendu à faire un bond en arrière phénoménal où on va arriver comme eux. Et c'est catastrophique. C'est catastrophique. On a fait le Téléthon l'année dernière, on ne fera pas le Téléthon cette année. En tant que chocolatier, je ne ferai pas le Téléthon, je ne pourrai pas. D'abord, il ne sera pas en place. Donc on fait un pas en arrière de géant.
C'est ce que disait Alain Darmian tout à l'heure, l'associatif, le caritatif ne peut plus fonctionner non plus. Donc c'est un manque à gagner pour tout le monde, pour les associations, pour l'associatif, pour le lien, le tissu, je dirais, que lie l'associatif, il est hyper important à travers des groupes folkloriques, à travers... Il parlait tout à l'heure des cruches, moi je sillonne la France toutes les semaines, avec une mission TF1 Téléshopping, de dire bon, on va mettre en avant la fête de l'ail, on va mettre en avant la fête de l'oignon, de l'échalote, des moules de bouchot, tout ça est passé à la trappe. En tous les cas, merci Patrick d'être venu nous parler, nous lancer un message, un SOS en fait.
C'est ça.
C'est un SOS, Save Our Soul.
À tous mes collègues, j'ai dit faut se battre, faut y croire, mais ça va être très compliqué.
Très compliqué. Ben, la radio sera ouverte pour que vous puissiez venir parler quand vous le voulez. C'est open, c'est free, c'est gratuit. Je vais laisser la parole finale à Monsieur Alain Darmian.
Qu'est-ce que tu veux que je chante quelque chose ?
Non.
Non, moi, j'ai, je pense que ce qu'il a dit est très important, il faut l'écouter. Quand il m'a dit tout à l'heure qu'il revenait 15 ans en arrière, je pense que ça aussi, il faut qu'il le dise et qu'il explique. 15 ans en arrière, pourquoi ?
Ben parce qu'il y a 15 ans, j'ai démarré mon entreprise. J'adore toujours l'entre-deux-mers. Et c'était compliqué, mais c'était logique que ça soit compliqué puisque je démarrais l'entreprise. Là, mon entreprise a 26 ans et j'ai l'impression de redémarrer tout à zéro. Et ça, ça fait mal.
Merci Patrick. Merci. Bonne journée, bon week-end à vous toutes et à vous tous. On vous embrasse, la radio de l'Entre-deux-Mers 98.4. Merci Monsieur le Président Francis Firpin. Merci Patrick Brossard. Merci Alain Darmian, le président des Cruches, qui reviendra le mois prochain. Allez, câlin, bisous et on y croit. Dum, dum, dum.